Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Bonjour à tous, bienvenue dans Vos Animaux, merci à vous d'écouter Sud Radio. Alors franchement, aujourd'hui on est au complet avec des êtres surprenants. D'abord un magnifique chat british, ce sera dans C'est votre histoire, on vous présentera cette race absolument magnifique, je n'ai pas d'autres qualificatifs. Et puis mon premier invité est vétérinaire, grâce à lui nous allons apprendre notamment à faire des massages cardiaques. Alors pour ce faire, il est venu dans ce studio avec un mannequin chien en peluche pour nous faire une vraie démonstration. Vous pouvez d'ailleurs nous suivre en Facebook Live pour découvrir comment réaliser ces gestes de première urgence. Et puis vous verrez nos British, on a 3 chats dans ce studio, 2 chattes et un petit chaton de quelques semaines. Absolument magnifique. Oui, Gaspard, il est caché pour le moment, mais vous allez le découvrir tout à l'heure. Et puis, côté faune sauvage, on va vous donner la parole ce matin sur un sujet qui divise la chasse. Tout le monde a un avis généralement bien tranché sur ce sujet. Mon invité a aussi un avis et ne manque pas d'arguments, puisqu'il vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Pas de fusil dans la nature, réponse aux chasseurs ». On parle vrai sur Sud Radio ce matin, une fois de plus, on parle chasse. Donnez-nous vous aussi votre avis, 0826 300 300. Mais tout de suite, on démarre avec vous, mon cher Gaspard. Vous m'avez l'air bien
Natacha.
En forme ce matin.
Très
ça
en
fait
forme.
Plaisir. On démarre avec le journal des animaux.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et comme Gaspard a fait son sapin de Noël, il nous dit quoi ce matin? Il nous le dit, attention à vos animaux avec le sapin de Noël.
Et oui, quand le sapin brille et clignote dans le salon au moment des fêtes, votre animal de compagnie, bien souvent, ne résiste pas à la tentation de jouer avec les boules et autres décorations, des objets qui peuvent être très dangereux pour vos chiens et chats. Si la boule de Noël explose en s'écrasant au sol, par exemple, les morceaux peuvent être mortels pour celui qui l'ingère. D'autres décorations peuvent aussi être dangereuses. Les guirlandes en cas d'ingestion, s'entortillent dans l'estomac. Quant à la guirlande électrique, elle peut électrocuter l'imprudent qui s'amuserait
à
la ranger. Je suis prévenant.
Comme c'est vrai.
Le faire, par exemple, les lapins. Faites attention aussi à certaines plantes. Les baies de gui contiennent un poison mortel pour nos petits compagnons à poil. Et le houx, s'il n'est pas fatal, provoque des empoisonnements dont les troubles digestifs vous gâcheraient la fête.
Eh bien, écoutez, on espère que vous résisterez tous à ces fêtes de Noël. Le Noël des animaux de la SPA lui a rencontré un franc succès, Gaspard.
Et oui, les Français ont répondu en nombre à ce rendez-vous donné, comme chaque année, par la société protectrice des animaux, organisée le week-end dernier. Il a permis à 1174 chiens et chats de trouver une nouvelle famille avant les fêtes de fin d'année, soit 19% de plus qu'en 2018. En dépit de l'annulation de son événement sur la place de la République, en raison des différents mouvements sociaux dans la capitale, les équipes de salariés et de bénévoles ont rappelé que l'adoption n'est pas un cadeau surprise que l'on glisse sous le sapin de Noël, mais qu'il est essentiel d'avoir mûrement réfléchi à cette engagement, car on le sait, Natacha, les fêtes de fin d'année sont malheureusement trop souvent propices à l'abandon.
Et puis vous vouliez nous parler d'un salon qui se tient jusqu'à dimanche à Toulouse.
Oui, le salon Régal, qui va parler de plusieurs races animales et espèces végétales qui sont sauvegardées au cours des dernières décennies sur place. Elle est connue depuis des millénaires. Le roi Henri IV lui-même a donné ses lettres de noblesse à travers la poule au pot, et pourtant la poule noire d'Astarac, Bigorre, avait tout simplement pu disparaître sans la création en 2003 de l'association La Poule Gasconne pour protéger la race et développer sa production. Tout comme le porc noir de Bigorre, c'est l'une des races sauvées les plus emblématiques. Rendez-vous compte, il y a quelques années, il ne restait que 2 mâles et 20 femelles. Aujourd'hui, une filière a réussi à être montée et des gens vivent de son élevage. D'autres espèces qui ont connu la même histoire ou presque sont à découvrir sur place, comme le cheval castillonnais ou l'âne des Pyrénées. Pour en savoir plus, pas d'autre solution que de vous rendre au Salon Régal de Toulouse qui se tient jusqu'à demain.
Et puis, ceux qui ne mangent pas de viande, n'allez pas au Salon Régal de Toulouse. Bien sûr. Allez, tout de suite, vos animaux et vous, et on va parler des soins de première urgence.
Sud Radio, vos animaux et vous.
Bonjour Artem Rogalev, vous êtes vétérinaire, vous êtes presque un habitué de cette émission, ça fait plusieurs fois qu'on vous reçoit. Mais alors là, Artem, vous êtes venu accompagné d'une drôle de bête.
Oui, bonjour, oui, effectivement, je suis accompagné aujourd'hui d'un mannequin chien.
Donc il est en peluche, hein, qu'on précise bien à nos auditeurs qui nous regardent, qui nous suivent en Facebook Live, parce que vous allez voir les démonstrations d'Artem. On avait envie ce matin d'essayer d'expliquer en fait à nos auditeurs sur vos animaux les gestes de premier secours. C'est vrai que pour nous, êtres humains, on peut prendre des cours avec les pompiers, avec des secouristes qui nous expliquent comment on fait un massage cardiaque, comment on réanime une personne en attendant les secours. Pour nos animaux, eh bien, c'est plus compliqué de trouver des structures qui dispensent ce type de cours. Vous le faites, Artem ?
Oui, effectivement, c'est plus récent et on pratique la même chose un petit peu qu'on a en secourisme humain, mais adapté à l'animal, donc chien ou chat. On apprend au propriétaire à réagir dans ces situations d'urgence, quoi faire, comment analyser la situation et éviter que l'animal ne décède ou que la situation s'aggrave.
Alors, j'imagine que déjà, le premier conseil de base que l'on peut donner aux propriétaires d'animaux qui se trouvent dans une situation d'urgence, c'est de garder leur calme.
Oui, bah, évidemment, il faut essayer de garder son calme, de garder un petit peu, quand on a fait la formation, effectivement, tout ce qu'on a appris, d'agir de façon raisonnée et pas uniquement par l'émotionnel, ce qui n'est pas évident quand c'est son propre animal
bien
et
sûr.
On a un lien affectif extrêmement fort. Mais il faut justement garder un petit peu raison pour ne pas passer à côté de choses graves et du coup ne pas réussir à sauver son animal.
Donc vous êtes venu pour nous faire des démonstrations ce matin. On va peut-être commencer par la chose la plus spectaculaire qui est le massage cardiaque, la réanimation cardio-respiratoire.
C'est ça, on parle de la même chose. Donc effectivement, c'est la plus spectaculaire, c'est aussi la plus grave. Et c'est ce genre de situation où on ne peut pas finalement, comme pour l'être humain, aller chez le vétérinaire parce qu'il sera trop tard. À moins que le vétérinaire soit à quelques mètres. Donc du coup, il faut que vous agissiez pour espérer sauver son animal.
Alors déjà, dans quel cas de figure on se lance dans un massage cardio-respiratoire sur son animal ?
Effectivement, déjà, il faut avoir respecté, entre guillemets, certaines conditions. C'est qu'effectivement, il faut s'assurer que l'animal soit bien en arrêt cardio-respiratoire. Si on a toujours des battements cardiaques, même si la fréquence cardiaque est extrêmement faible, on ne masse pas un cœur qui bat. D'accord.
Donc, et alors, comment on s'en assure, Artem ?
Justement, vous êtes
vétérinaire, donc c'est facile pour vous. Mais pour nos auditeurs sur Sud Radio, ils n'ont pas vos compétences en la matière.
Alors effectivement, ça va être compliqué ce matin d'aborder tous les points, mais c'est des choses qu'on aborde en formation. C'est-à-dire qu'avant de sauter et de faire les gestes de secourisme sur son animal, il faut réaliser un rapide bilan de santé. Donc regarder les fonctions vitales. Donc les fonctions vitales, ça va être la fréquence cardiaque, est-ce que le cœur bat, la fréquence respiratoire, regarder la couleur des muqueuses.
Alors déjà, comment s'assure-t-on que le cœur bat ? On fait quoi ? On pose sa main au niveau
Alors,
du cœur ?
Alors effectivement, on pose sa main au niveau du cœur.
Montrez-nous, pour ceux qui peuvent nous suivre en Facebook Live, vous aurez la démonstration. Puis on va essayer de vous décrire le plus possible la situation pour ceux qui ne nous suivraient pas en Facebook Live.
Alors, donc du coup, on va déjà s'assurer que le cœur est bien en arrêt.
Préciser, quand même, ça va vous paraître idiot comme question, mais préciser où se trouve le cœur du chien, par exemple.
Oui, justement, j'allais y venir. Donc le cœur, en fait, de l'animal, chien ou chat, est situé au niveau du thorax, plutôt du côté gauche, et environ sous son coude. Donc le coude, c'est l'articulation qui est...
La patte avant, faisons simple.
Voilà, et donc il est situé au niveau du thorax, sous ce coude. Donc on va mettre la main et voir si on sent les battements cardiaques ou pas.
Donc en haut de la patte avant gauche, on pose sa main...
Sous la patte, sur le thorax.
Au niveau du thorax.
Voilà, c'est
ça. Et là, on doit, juste avec la paume de la main ou les doigts, on doit ressentir les battements cardiaques.
Exactement. Et donc si on ne les ressent pas, c'est que l'animal est en arrêt cardiaque.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à vérifier avant de se lancer sur le massage cardiaque ?
Vérifier si l'animal respire ou pas. Donc là, on pose la main sur le thorax. Là, il n'y a pas de zone spécifique. On pose
donc
la main sur les côtes.
Donc la zone où sont les poumons, sous les côtes.
Et on regarde si l'animal respire, effectivement.
Est-ce qu'on peut, au niveau de la truffe, peut-être sentir l'air expirer ?
On peut essayer de mettre la main, effectivement, en avant de la truffe et regarder si on sent le flux d'air.
Oui.
Donc si, effectivement, on n'a plus de mouvement cardiaque, on n'a plus de mouvement respiratoire, on va pouvoir procéder à la réanimation cardio-respiratoire. Déjà bien positionner l'animal. Le cœur, on l'a dit, est situé à gauche, donc il faut que l'animal soit couché sur le côté droit pour que le cœur
soit vers nous
et le plus proche de nous.
Mm-hmm.
Ensuite, il faut positionner l'animal en provoquant une extension des cervicales pour faciliter le passage de l'air. Alors là, c'est un mannequin, ça sera compliqué. Enlever ce qui est collier ou autre qui pourrait gêner la respiration.
Collier, harnais, tout ça, on retire.
On retire tout ça. Et dernier point quand même extrêmement important, il faut que l'animal soit en arrêt cardio-respiratoire depuis moins de 15 à 20 minutes. C'est-à-dire que si on intervient, qu'on trouve l'animal, il est en arrêt, on ne sait pas depuis combien de temps, on peut tenter une réanimation cardio-respiratoire, mais plus le temps entre l'arrêt et la réanimation sera long.
Bien sûr. Déjà, 15 à 20 minutes, ça me paraît extrêmement long.
Oui, alors après,
on a
effectivement
encore des chances au bout de 15 minutes de réanimer
de moins
un animal.
De moins en moins.
Ça. Plus le temps passe, moins on a
plus le temps passe et plus ça devient compliqué.
Donc une fois, alors voilà, Artem se met debout dans le studio pour procéder au massage cardiaque sur son mannequin chien de grande envergure.
Effectivement. Alors une fois après qu'on a positionné l'animal, bon, l'idéal c'est de l'avoir par terre parce qu'on sera mieux installé.
Bien sûr.
Et on va positionner donc notre main sur le cœur. D'accord. Donc là, effectivement, il faut savoir où il se situe.
Donc vous mettez votre main droite sur le cœur et la main gauche.
Oui, ou l'inverse, peu importe. Met les deux mains l'une sur l'autre et on va réaliser des pressions au niveau de la cage thoracique. D'accord.
Oui.
À quel rythme on va le faire? On va le faire environ à 2 compressions par seconde, ce qui correspondra environ à 120 battements par minute, qui est environ la fréquence cardiaque normale.
Oui, parce que en fait, les chiens et les chats ont un cœur qui bat beaucoup plus vite que nous.
Oui. Donc du coup, voilà, on fait 2 compressions par seconde et on va faire ça de manière assez rythmée en gardant les avant-bras tendus pour avoir le plus de force possible au moment de la compression.
Alors là, on a une petite démonstration en studio.
Voilà. Donc en gros, ça
assez
va donner quelque chose comme ça.
Alors voilà, Artem fait réanimation cardiovasculaire sur notre mannequin, donc à un rythme assez soutenu, hein, on l'a dit, puisque les battements cardiaques chez les chiens et chez les chats sont beaucoup plus élevés que les nôtres. J'imagine qu'il ne faut pas appuyer comme une brute.
Alors, il ne faut effectivement pas appuyer comme une brute, mais il faut quand même appuyer suffisamment pour réaliser une compression correcte. Si je vais tout doucement et que je n'appuie pas très fort, mon massage ne sera pas efficace.
D'accord.
Et je diminue d'autant plus.
Mais si on a un animal de petit gabarit,
il faut adapter la pression à la taille de l'animal.
Okay.
Après, si on est plusieurs, on a possibilité de vérifier si notre massage est efficace ou pas.
Et le massage que vous venez de pratiquer, là, on le fait pendant combien de temps?
Alors, on essaie de le faire pendant 1 minute. Au bout d'une minute, on arrête et on regarde si le cœur repart.
D'accord. Si le cœur repart,
on arrête le massage, évidemment. Encore une fois, on ne masse pas un cœur qui bat.
D'accord.
Si le cœur n'est pas reparti, on continue.
Parfait. Eh bien, écoutez, on va marquer une courte pause pour que notre mannequin chien se remette de ses émotions. On vous retrouve dans quelques minutes.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente
Sud Radio, vos animaux et vous.
Et dans vos animaux, ce matin, en compagnie du docteur Artem Rogalev, qui travaille au centre Alform, situé sur l'école vétérinaire de Maison Alfort, nous essayons de vous dispenser, alors en radio c'est toujours un petit peu compliqué, mais on essaie de vous dispenser vraiment les gestes essentiels à connaître pour sauver votre animal. On vient de voir le massage cardiaque, c'était vraiment impressionnant. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre en Facebook Live, puisque Artem est venu avec un mannequin et on a fait une vraie démonstration de massage cardiaque. On va essayer de voir les autres gestes de première urgence. Pouvons-nous parler, Artem, des plaies, des hémorragies? Comment réagir lorsque son animal saigne de manière importante?
Oui, parce qu'effectivement, c'est pas ce qu'on rencontre heureusement le plus fréquemment, l'arrêt cardio-respiratoire. Le plus souvent, ça va être effectivement des plaies ou des choses un petit peu moins graves, mais qui peuvent le devenir. Donc quand on a une plaie, par exemple, la première chose, c'est de ne pas se précipiter encore une fois sur la plaie, mais de faire un bilan complet de l'animal, parce que peut-être que s'il y a une plaie, mais s'il y a eu un choc ou ce genre de choses, il peut y avoir une hémorragie interne, il peut y avoir d'autres choses finalement plus graves que la plaie qui peut être en fait très superficielle.
Soyons concrets, qu'est-ce que vous entendez par bilan complet de l'animal?
C'est vraiment regarder les fonctions vitales, toujours pareil.
Toujours
en fait,
pareil.
La priorité, la priorité, c'est les fonctions vitales. Alors, il y a le cœur, il y a la respiration, il y a la couleur des muqueuses, l'hydratation, la température. Alors, ça apparaît beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement, mais qui nous permet en fait de faire un bilan de ces fonctions. Et ensuite seulement, on va s'intéresser aux choses qui permettent de grader en fait la gravité des lésions et de s'intéresser vraiment à ce qui est le plus grave pour l'animal.
Alors, en cas d'hémorragie, d'abord, quelles sont les zones du corps où une hémorragie sera vraiment grave?
Alors, chaque hémorragie peut être grave, en fait. Il n'y a pas de zone privilégiée. Après, elles vont être plus ou moins faciles à arrêter. Une hémorragie externe, donc au niveau d'un membre, par exemple, va être relativement facile à arrêter, à l'inverse d'une hémorragie, par exemple, interne ou extériorisée, c'est-à-dire du sang qui sort par la bouche, par l'anus, par ces voies-là, où on n'a pas l'origine du saignement. Et là, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et là, il faut foncer chez le vétérinaire.
D'accord. Alors, sur un membre, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, sur un membre,
Après, on partira au standard, parce que je crois qu'on a un appel au standard.
Si on a une hémorragie au niveau d'un membre, imaginons qu'on ait une hémorragie là, à l'extrémité de la patte, il faut d'abord bien s'assurer qu'on n'ait pas de fracture ou de corps étranger, oui. Parce que si on réalise une compression directement sur la zone, ben, en fait, ça va être extrêmement douloureux pour l'animal. Si on n'a pas de corps étranger ou ce genre de choses, on va prendre par exemple un tas de compresses, parce qu'il faut avoir effectivement quand
on
se déplace.
On n'a pas forcément ça sous la main quand même, Martin.
Ben, oui, mais justement, mais il faudrait avoir une trousse de premier secours aussi bien pour l'humain que pour l'animal. Si on n'a pas de compresse, on prend un linge propre.
Je serais curieuse d'interroger tous ceux qui sont dans ce studio ici pour savoir combien d'entre nous nous promenons avec une trousse de premier secours.
Alors évidemment, quand on va se promener, on ne va pas prendre...
Aucun d'entre nous.
Non, évidemment, quand on se promène, on ne prend pas une trousse de premier secours. Par contre, quand on part avec son animal, quand on fait des randonnées, quand on fait des choses un petit peu longues...
sur des choses un peu compliquées.
Où il faut effectivement avoir des...
Alors, on prend les compresses et qu'est-ce qu'on fait avec les compresses?
On prend les compresses.
Ou assimiler un paquet de Kleenex plus facile à avoir dans la poche.
Ou un linge propre ou quelque chose, en fait. Et on va venir réaliser en fait une compression, si toujours pareil, il n'y a pas de fracture, une compression directe sur la zone de saignement.
D'accord.
Et on va venir comprimer très fort pour essayer de stopper ce saignement. Donc on va
là encore, démonstration en Facebook Live pour ceux qui nous suivent sur Facebook. Donc vous mettez les compresses sur la zone de saignement, vous appuyez fermement et après vous les attachez avec quelque chose, j'imagine.
Alors, dans un premier temps, on va tenir cette compression pendant 1 à 2 minutes et on va voir si le saignement se stoppe. Si le saignement se stoppe, ensuite on réalisera effectivement un pansement. Si le saignement ne se stoppe pas, il faut maintenir la compression.
D'accord. La compression en premier lieu.
Karine a composé le 0826 300 300 et veut intervenir sur Sud Radio. Bonjour Karine.
Bonjour
oui,
Karine.
Bonjour tout le monde. Bonjour à tous.
De nous appelez-vous Karine
De Bias, dans 47 300, à côté de Villeneuve-sur-Lot.
Ah, il doit faire un temps de cochon chez vous.
Ah ben oui, oui, tout à fait. Je confirme qu'on a eu des vents assez importants. Je suis en coupure d'électricité d'ailleurs.
Ah, bon, ben écoutez, est-ce qu'on peut vous aider au moins pour vos animaux? Dites-nous.
Alors, moi j'ai une petite bulldog française.
Oui.
Qui, c'est une race qui est un peu particulière. Au niveau cardio, c'est assez faible, on va dire. Et il m'est arrivé un incident où elle a pris une sorte de coup de chaleur à une rando en fait en plein été et en fait elle a perdu connaissance et on a dû la réanimer, voilà. Alors on s'est pas réanimé un chien, enfin c'est un peu
grâce à vos animaux ce matin on a appris comment réanimer un chien.
Voilà. Et bien, si j'avais écouté plus tôt, j'aurais peut-être moins stressé, parce que c'était assez compliqué.
Oui.
On lui a mis de l'eau, on a essayé de elle a pris un coup de chaud, quoi. Donc c'est quelque chose. Moi je ne savais pas. C'est la première fois que j'ai cette race-là, et c'est vrai que c'est pas.
C'est pas une race facile en la matière. Artem Rogalev, les bulldogs français, anglais, tous ces animaux brachycéphales, donc avec la face aplatie, pas de nez quasiment. Ou un museau très court, ce sont des races compliquées.
Oui, c'est des races compliquées.
Au niveau cardio-respiratoire, j'entends.
Oui, au niveau respiratoire particulièrement, parce qu'effectivement, de par leur morphologie, la respiration peut être assez compliquée. Et effectivement, le chien, comme le chat d'ailleurs, en fait, a assez peu de moyens de thermorégulation. Il ne transpire pas comme nous. Donc, sa seule façon de thermoréguler, donc c'est-à-dire réguler sa température, ça va être par la respiration. Et sur un animal qui a déjà une morphologie qui n'aide pas la fonction respiratoire, très très vite, il peut se retrouver effectivement en coup de chaleur.
Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans le cas rencontré par Karine avec son bulldog, elle fait une randonnée, coup de chaleur sur le bulldog. Que faut-il faire?
Il faut essayer de mettre l'animal à l'ombre et puis le refroidir de façon progressive, donc de ne pas le mettre dans
On ne le plonge pas dans la première rivière venue.
La première rivière ou premier lac venu.
Doucement.
On y va vraiment progressivement et on surveille. Donc là aussi, besoin d'avoir un thermomètre dans sa trousse ou avoir un thermomètre. On surveille le refroidissement parce que très souvent, au niveau vétérinaire, ce qu'on peut retrouver, c'est que les gens, et comme donc, l'auditrice nous l'a dit, on pense à refroidir, mais n'ayant pas de thermomètre, refroidissent. Et quand ils arrivent en clinique, ils ne sont plus en hyperthermie, mais en hypothermie.
Parce que
justement, on n'a pas contrôlé ce refroidissement. Mm-hmm. Et l'hypothermie derrière peut aussi être extrêmement grave pour l'animal.
Donc Karine a eu les bons réflexes en essayant de refroidir son chien comme elle l'a fait.
Oui, effectivement.
Ça s'est fini comment, Karine?
Ça s'est fini que je l'ai porté sur 17 kilomètres.
D'accord, voilà. Pour aller chez le vétérinaire. Mais rassurez-nous, ce petit bulldog s'en est sorti.
Oui, elle va très bien. Elle va très bien et ça m'a servi de leçon. Et c'est vrai que maintenant, en période de forte chaleur, etc., on fait des balades courtes, quoi. On part pas en...
Surtout avec ce type de race, effectivement.
Et oui.
c'est des chiens qui sont particulièrement exposés. Merci en tout cas de nous avoir appelés.
Avec plaisir.
Merci pour votre témoignage, puis on espère que vous allez retrouver de l'électricité très vite.
On
vous
merci
embrasse
beaucoup.
Karine, bon week-end malgré
merci.
Tout. Juste en conclusion très rapide, Artem, qu'est-ce qu'on met justement dans sa trousse de première urgence? On a compris des compresses?
De quoi en fait gérer n'importe quelle situation d'urgence, donc de quoi se protéger, parce qu'on n'a pas trop parlé, mais de la morsure, de la griffure, donc ça peut être des liens pour museler l'animal, ce genre de choses. Et après effectivement des ciseaux, des compresses, un désinfectant. Et si je peux rajouter juste un dernier point par rapport à tout ça, c'est que effectivement, les formations de secourisme aident ou apprennent à faire les gestes, mais le référent santé au niveau de l'animal reste le vétérinaire.
Évidemment.
Donc ça n'empêche pas d'aller chez le vétérinaire, ça n'évite pas d'aller chez le vétérinaire, il faut systématiquement y aller. Et c'est lui seul qui pourra poser un diagnostic et mettre vraiment un traitement adapté pour soigner l'animal.
Tout à fait. Je rappelle que vous dispensez des formations au Centre Alfort, c'est sur le site de l'école vétérinaire de Maison Alfort, c'est en région parisienne, pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci pour vos précieux conseils. Allez, petite pause, et juste après, on va parler de la chasse. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 pour ou contre.
Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente.
Sud Radio, vos animaux, Natacha Harry.
Et dans vos animaux ce matin, mais de nombreux sujets. On a vu les gestes de premier secours. Dans quelques minutes, avec mon invité Faune Sauvage, nous allons parler de la chasse. Il a écrit un livre contre la chasse où il explique, où il argumente pourquoi cette pratique de la chasse lui semble totalement incohérente. On vous demande d'ailleurs votre avis sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à venir témoigner. Dans la joie et la bonne humeur, bien sûr.
Mais pour l'heure, les questions veto qui vous sont posées, Natacha.
Sud Radio, vos animaux. Question veto.
Et ce matin, c'est Nicole qui a une question à vous poser. Bonjour Nicole.
Bonjour Nicole.
Ça va bien?
Écoutez, nous, ça va super bien. Et vous?
Alors moi, ça va. Je suis comme vous très, très fâchée contre les chasseurs. D'ailleurs, ils sont tellement doués qu'ils arrivent à se tuer entre eux. Bon, mais ça, c'est autre chose. Mais je suis tout à fait contre. C'est une pratique qui n'a plus lieu à d'être. Surtout qu'ils remplissent leur congélateur et c'est même pas pour manger. Bon, à part ça, moi, ma question...
Oui, vous aviez une petite question, Nicole. Mais c'est bien d'avoir anticipé sur le sujet d'après.
Voilà. Donc, moi, j'ai une chatte qui va gaillardement sur ses 23 ans.
Ah oui.
Elle mouille bien, elle est en pleine forme. Le gros problème que j'ai avec elle, c'est qu'elle se met à hurler par moments, jusqu'à même au point que ma voisine m'a demandé ce qu'elle avait, si elle n'était pas malade. Et elle me fait ça aussi bien à 3 heures du matin que n'importe quand. Quand elle sort de la véranda, j'ai une chatière, elle sort, elle se met à hurler. Après, je sors, moi, quand je l'entends, je sors, je lui parle. Elle miaule normalement. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, plusieurs choses, Nicole. D'abord, vu l'âge très avancé de votre chatte, quand même presque 23 ans, c'est un très 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 bel âge. Le premier conseil que je vais forcément vous donner, c'est d'aller voir votre vétérinaire pour exclure toute cause médicale, parce que elle peut avoir un souci de santé, un souci physiologique qui génère une douleur qui fasse que ça déclenche des hurlements. Si votre vétérinaire exclut toute cause médicale, s'il fait une prise de sang, s'il l'auscule, s'il voit que tout va bien, enfin bien en phase avec son âge, hein, évidemment, parce que j'imagine que c'est constance, si on lui fait une prise de sang, il y aura quand même un petit peu la marque de l'âge qui sera forcément là. Mais si globalement tout va bien, il faut aller chercher la réponse dans une solution comportementale. Et j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit. Quand elle hurle, vous allez voir, vous lui parlez, vous lui demandez si tout va bien. Très souvent, quand des chats se mettent à hurler, et la situation de votre chatte n'est pas une situation rare, quand les chats se mettent à hurler, ça peut être un signe d'appel au jeu ou d'une demande d'attention de la part de leur propriétaire. Si on a exclu tout problème médical en amont, bien sûr. Et forcément, si vous lui répondez, donc vous répondez à son appel, elle n'a aucune raison d'arrêter ses hurlements. Plus vous lui répondrez, plus elle vous sollicitera quand elle aura besoin de votre attention. Donc une fois que vous aurez exclu tout problème médical avec votre vétérinaire, si vous souhaitez qu'elle arrête ses hurlements, le seul et unique conseil que je puisse vous donner, Nicole, c'est de ne pas manifester le moindre intérêt quand elle se met à hurler. Alors, je sais que c'est un peu compliqué et que forcément, un animal qui hurle, ça nous interpelle, on va voir, on lui parle, on interagit avec lui, mais ça peut être justement ce qu'il recherche. Donc il faut vraiment, et comme ce comportement est installé chez votre petite Minette, il faut forcément que vous arriviez à être dans une neutralité totale, mais pas une seule fois, mais à de multiples reprises. Et normalement, ce comportement devrait cesser. Est-ce que vous pensez que vous en êtes capable, Nicole ?
Bien sûr que moi, à 3h du matin, ça ne m'enchante pas, je veux dire franchement, puis ça n'enchante pas du tout mon mari qui est réveillé.
J'imagine, mais qu'est-ce que vous faites ? Vous vous réveillez, vous regardez ce qui se passe.
Voilà, je me lève, je vais la voir. Bon, quand elle est à l'intérieur de la maison, j'ouvre la terrasse pour qu'elle puisse aller, la véranda pour qu'elle puisse aller dehors. Et puis, puis après, elle fait sa vie.
Donc en fait, elle hurle, vous vous levez, vous ouvrez la véranda pour qu'elle aille dehors. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle arrête d'hurler ? Vous voyez, parce qu'elle se dit, si j'hurle, ça les réveille, ils vont me donner ce que je cherche, donc forcément, elle va recommencer.
Tu entends ? Je ne sais pas qu'elle est là.
Elle va me détester. Donc, Nicole, si vous voulez que ça cesse, donc première chose déjà, vous allez voir votre vétérinaire, parce que quand même, 22 ans, je pense qu'un petit bilan s'impose. Si tout va bien à ce niveau-là, la prochaine fois qu'elle hurle, mais vous ne levez pas un seul morceau de votre paupière, vous restez patiemment dans votre lit sans réagir en aucune manière et vous dites à votre mari de faire la même chose. Quand je dis sans réagir, c'est pas non plus en pestant après elle, parce que c'est une forme de réaction aussi.
Rien, parce que là, quand je l'entends, je lui dis « Babiche, tais-toi !»
Ah ben non, vous ne lui parlez pas. Vous ne lui parlez pas et vous essayez de manière récurrente de ne pas lui parler à chaque fois qu'elle vous interpelle comme ça. Et vous allez voir que ça devrait s'arrêter. Voilà, Nicole, on vous souhaite un excellent week-end.
Si, comme Nicole, vous voulez poser vos questions à Natacha Harrier et ses invités, n'hésitez pas, 0-826-300-300.
Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Alors, dans notre séquence à l'état sauvage, un sujet qui va forcément vous faire réagir au standard de Sud Radio. Et d'ailleurs, nous attendons vos réactions au 0826-300-300. On va parler de la chasse ce matin, puisque j'ai le plaisir de recevoir Pierre Rigaud, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs ». C'est un livre que j'ai pris le temps de lire avec beaucoup d'intérêt. C'est un livre extrêmement argumenté, documenté sur la chasse, préfacé aussi par Nicolas Hulot. Pierre, bonjour tout d'abord.
Bonjour Natacha.
Qu'est-ce que vous avez souhaité raconter dans ce livre ?
D'abord, j'ai souhaité raconter ce qu'est la chasse, vraiment, parce qu'on ne connaît pas très bien la chasse. La plupart des gens n'aiment pas la chasse. 80% des gens qui habitent soit en ville, soit à la campagne n'aiment pas la chasse. Et en fait, assez peu de gens qui ne pratiquent pas la chasse ne savent pas en quoi ça consiste exactement. Donc j'ai essayé d'expliquer de la manière la plus objective possible. Bien sûr, il y a un angle, le titre est explicite. Je suis opposé à la chasse, mais j'ai essayé de prendre du recul et de voir ce que les chasseurs pouvaient apporter de positif parce qu'ils revendiquent d'être, par exemple, écologistes.
Donc, c'est vrai qu'on se souvient de cette campagne de communication où les chasseurs se présentaient comme les premiers écologistes de France. Une campagne qui a fait hurler les associations de protection de la nature.
Et oui, et quand on parle avec des chasseurs au quotidien, ce qui est mon cas, moi je vis à la campagne, je côtoie les chasseurs et en fait ils ont l'impression parfois d'être écologistes, autant c'était un petit peu provocateur cette campagne, ce slogan publicitaire de la Fédération Nationale des Chasseurs, autant des chasseurs sur le terrain se pensent être gestionnaires de la nature, régulateurs, donc j'ai essayé d'expliquer que c'est pas vraiment le cas, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'en réalité il y a quand même beaucoup plus de méfaits que de bienfaits.
Alors, pourquoi, est-ce que vous pouvez répondre quelque chose aux gens qui vous disent que la chasse est utile ? Parce que c'est souvent un argument qui est mis en valeur par les chasseurs en disant « on est utile, on régule les populations d'animaux qui peuvent être en excès, comme par exemple les sangliers qui font beaucoup de dégâts dans les cultures ». C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Les sangliers font des dégâts dans les cultures, ça c'est vrai incontestablement, mais il faut dire que tout cette notion de régulation que mettent en avant sans cesse les chasseurs concerne, même d'après eux, en fait, même pas 5% des animaux tués à la chasse. Ce sont en effet les sangliers, parfois les chevreuils, parfois les cerfs. Mais si on prend tous ces animaux-là, c'est infime par rapport à tous les autres dont personne ne dit qu'ils sont en excès. Aucun scientifique vous dira que les grives prolifèrent, qu'elles menacent les activités humaines. Aucun scientifique vous dira que les canards chipots, que les alouettes des champs sont dangereuses, menacent l'agriculture, etc. Donc même si on s'intéresse au sanglier, ce qui est un cas très très compliqué. C'est
d'ailleurs dans votre
infime.
Livre, Pierre Rigaud, vous parlez de l'escroquerie du sanglier.
Oui.
Ce sont des mots forts, je vous cite, hein, vraiment dans le texte. Qu'est-ce que vous voulez dire par
ces
mots ?
Et bien parce que, en fait, pour résumer, les chasseurs se posent en régulateur des sangliers, mais malgré les 700 000 sangliers abattus tous les ans, il y a toujours de plus en plus de sangliers. En fait, historiquement, il faut repartir un petit peu en arrière. Dans les années 70, il y a eu des lâchers de sangliers dans la nature, il y a eu des nourrissages de sangliers, des croisements avec des cochons. Et aujourd'hui, les chasseurs ne maîtrisent plus vraiment ce sanglier qu'ils ont eux-mêmes contribué à proliférer. Et les dégâts dans les cultures pourraient être réglés en fait autrement que simplement en confiant la gestion de ce dossier aux chasseurs.
C'est
en
de ça quelle que manière on pourrait régler ce problème des dégâts faits par les sangliers dans les cultures des agriculteurs ?
Mais d'abord, c'est un problème agricole avant tout, à savoir que les dégâts sont concentrés dans une minorité des cultures, essentiellement les cultures de maïs intensif, pas seulement, mais c'est vraiment une grande partie. Or, le maïs intensif, c'est pas la culture la plus écolo qui soit. Donc, si on faisait des parcelles plus petites que cette grande...
Moi, j'ai des agriculteurs chasseurs dans ma famille. Je peux vous dire qu'ils vont m'appeler tout à l'heure en me disant...
Je suis désolé, Natacha. Mais oui, mais la culture du maïs intensif, franchement, c'est assez désastreux écologiquement, il faut le dire. C'est mauvais pour les sols, c'est mauvais pour la biodiversité, et les sangliers raffolent du maïs. Donc, ils ont profité en fait de la croissance des plantations de maïs, mais pas que toutes ces grandes cultures. Si on fait des parcelles plus petites, avec plus de rotation et des protections des cultures physiques, des petites cultures, ça fonctionne assez bien. Et
ça arrête les sangliers, les clôtures ?
Si elles sont bien mises, ça les ralentit, ça les freine énormément. Mais après, si on considère que très localement, il peut y avoir beaucoup trop de sangliers par rapport à une activité humaine, ce qui se discute franchement, eh bien dans ce cas, on pourrait, même au niveau politique, envisager d'autres solutions, comme ça se fait sur des grands ongulés dans d'autres pays, par exemple la stérilisation, plutôt que de simplement les tuer, ce qui ne ralentit pas leur reproduction.
Mmh. Aurore nous appelle de l'Essonne et veut intervenir sur Sud Radio. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Bonjour Aurore. Alors forcément, ce sujet fait débat. Hein. Le sujet de la chasse est toujours un sujet compliqué, mais on parle vrai sur Sud Radio. On vous écoute, Aurore. Quel est votre point de vue ?
Moi, déjà, tout d'abord, je voulais remercier Monsieur Rigaud pour tout ce qu'il arrive à nous, en fait, nous montrer, parce que moi,
vous avez
découvert
une fan, Pierre.
Je sais pas. Merci,
non, non, mais c'est parce qu'en fait, je suivais pas avant, et en fait, comme je suis très intéressée par la nature et les animaux, et il s'est avéré que j'ai vu quelques publications et j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'admire votre calme, parce que vraiment, quand on voit en face toujours les mêmes arguments des chasseurs, sans en fait d'explications, alors que vous en avez plein et qui sont comme vous avez dit, Natacha, au début, qui sont circonstanciés, qui sont étudiés. Je trouve ça assez... je vous admire vraiment d'être aussi calme, parce que nous, quand on est côté citoyen et qu'on n'a pas autant la parole que vous, on est plus énervé qu'autre chose de voir toute cette mauvaise foi, et surtout contre une pratique qui, majoritairement, les Français n'en veulent pas.
Vous habitez donc en Essonne, Aurore, c'est bien ça ?
Oui.
Vous êtes dans une partie assez rurale de l'Essonne ?
Alors, Bièvre, c'est pas tout à fait rural, mais en fait, je vais souvent, moi j'ai des chiens,
oui.
Je vais souvent les promener dans la vallée de Chevreuse, à Rambouillet ou vers Toussus-le-Nob. Enfin voilà, c'est des endroits où oui, c'est agricole, il y a de la forêt, etc. Donc, et puis même, sans aller aussi loin, Saint-Jean-de-Beauregard à côté des Ulysses, quand vous vous promenez, vous entendez parfois les coups de fusil au loin. Et moi, clairement, j'ai
ça vous dérange.
Pour mes chiens. Ah, mais clairement, je trouve ça juste, je trouve ça hallucinant qu'une minorité. En fait, sème la terreur, si je puis dire, pour une majorité qui a juste envie de vivre tranquillement, et tout ça sous le prétexte d'un sport ou tradition, je ne sais même plus comment on peut appeler ça, mais moi, ce que je voulais dire, c'est surtout, à plusieurs égards, je suis contre, et même si je n'ai pas évidemment fait toutes les études sur le terrain que M. Rigaud a fait, au-delà du fait que ça pollue, parce que quand même, le plomb dans la nature, on n'en parle pas beaucoup. Moi, je n'ai pas lu votre livre qui a l'air super, peut-être que j'aurai l'occasion
de
lire.
Vous savez quoi ? Je vais dealer quelque chose pour vous, Aurore, avec Pierre. Il va vous envoyer un livre dédicacé.
Ah,
avant de raccrocher tout à l'heure, vous laisserez votre adresse au standard de Sud Radio pour qu'on vous adresse un ouvrage. Vous êtes d'accord, Pierre ?
Volontiers, Natacha.
C'est très gentil, merci. Je me ferai un plaisir de le lire. Et je pense que j'en apprendrai plus parce que, comme je disais, j'apprends un peu, enfin, je lis un peu de plein d'articles. Et pour moi, au-delà du fait qu'on pollue quand même la nature avec le plomb, et bizarrement, on n'en parle pas parce que le débat est tellement chaud, j'ai l'impression, sur le reste, que ça, on en fait chi, mais il faut juste le rappeler. Et d'autre part, donc le côté écolo, on repassera hein, pour moi. Et d'autre part, on tue quand même la biodiversité qui est en plein danger. Quoi.
Vous amenez effectivement plein de questions, Aurore, et restez avec nous pour participer à ce débat. Pierre, une question un peu générale, mais finalement qui a du sens et qui est peut-être la question principale. pourquoi chasse-t-on aujourd'hui en France ?
Alors, d'abord,
en France,
je remercie Aurore pour son témoignage. Et pourquoi on chasse en France ?
Elle fait pas partie de votre famille, Aurore.
Non, je ne la connais pas. J'ai pas le plaisir de connaître Aurore. Je ne fréquente assez peu l'Essonne, je dois le dire. Alors, pourquoi les chasseurs chassent ?
Pourquoi chasse-t-on ? Alors, c'est pas pour se nourrir.
Écoutez, je vais répondre très factuellement parce qu'il y a des sondages qui sont faits auprès des chasseurs eux-mêmes, alors qu'ils sont commandés par la Fédération des chasseurs, donc on ne pourra pas les accuser d'être biaisés par moi-même. Mais en fait, quand on demande aux chasseurs pourquoi chassez-vous, très majoritairement, ils disent c'est pour aller dans la nature, pour sortir le chien, pour être avec les copains, pour la convivialité. Et tout en bas du classement, ils disent « Ah oui, c'est quand même pour tuer un animal. » Mais quand on leur dit « Vous pouvez faire tout ça sans tuer un animal », donc ils disent « Bah non, c'est plus la chasse. » Donc en fait, au fond d'eux-mêmes, je crois sincèrement que beaucoup de chasseurs sont un petit peu dans le déni de l'intérêt qu'ils ont à simplement tuer un animal, comme on le fait depuis toujours. C'est ce qu'ils disent comme argument. On l'a toujours fait, et c'est vrai, depuis des millions d'années, les humains et même les ancêtres des humains chassaient. Sauf qu'à l'époque, évidemment,
sauf que c'était pour se nourrir.
C'était la subsistance. Aujourd'hui, c'est devenu un loisir, c'est devenu un commerce également. Et il y a toujours ce petit instinct, je pense, cet atavisme qui subsiste chez certains d'entre nous et qui sont cet atavisme transmis, entretenu de génération en génération, culturellement, parce qu'en fait, la plupart des chasseurs le sont quand leur père leur a inculqué, ou leur grand-père leur a inculqué la chasse. Donc ça se transmet filialement, vraiment de père en fils, ou de grand-père en fils, ou de tonton en neveu. Le principe même de la chasse, qui consiste tout de même, de manière très simple, à sortir dans la nature avec généralement un fusil et à tuer un animal, eh bien, beaucoup de chasseurs ont du mal à l'assumer. Donc ils sortent tout un tas d'arguments qui sont annexes, qui sont ce qu'on peut faire sans avoir besoin de tuer un animal.
Eh bien, merci beaucoup Pierre Rigaud. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pas de fusil dans la nature, les réponses aux chasseurs, avec une très belle préface de Nicolas Hulot. Aurore, c'est promis, Pierre vous envoie à la fin de cette émission, un ouvrage dédicacé. Merci pour votre témoignage.
Merci à vous.
Et on le précise à tous les chasseurs qui peuvent aussi nous écouter, nous n'avons pas sélectionné spécifiquement notre auditrice fan de notre invité, Pierre Rigaud. Allez, maintenant, on va parler, dans quelques minutes, on va parler du British magnifique chat qui est d'ailleurs venu me faire un câlin parce qu'elle s'est dit, mais c'est à moi maintenant. Petite pub et on se retrouve juste après.
Animalis, le magasin des animaux à vivre et à aimer. Retrouvez-nous aussi sur animalis.com. Animalis présente.
Vos animaux sur Sud Radio, c'est votre histoire.
Alors vous le savez, les British ne sont pas nos meilleurs amis sur les terrains de rugby. En revanche, quand on parle chat, mais alors ces British-là, on les adore. J'ai le plaisir d'être en ligne avec Jacqueline Viala, qui est représentante de l'Association pour la promotion du British et du Scottish. Et puis sa fille, Sophie Viala. Bonjour Sophie.
Bonjour Natacha.
Sophie, vous êtes venue avec trois magnifiques British, deux mamans, et un bébé qui a tout juste 6 semaines.
C'est ça, absolument.
Ces chats sont absolument formidables. Alors avant que vous nous les décriviez, que vous nous parliez de leur tempérament, avec vous Jacqueline, j'aimerais qu'on revienne sur l'origine de la race British.
Alors l'origine de la race British, c'est un chat courant dans les îles britanniques, c'est pour ça qu'on l'a appelé British, et qui a été développé il y a de nombreuses années par les Anglais, contrairement à nous qui avons développé notre race européenne beaucoup plus tard. Eux, ils existent, les British existent dans toutes les couleurs et même en poil mi-long, et donc ça fait très longtemps qu'ils sont élevés. Et c'est un chat qui est impeccable pour la famille, dans une famille avec les enfants et tout ça. C'est un chat qui est adorable.
Alors je crois savoir que ce chat a bien failli disparaître après la Deuxième Guerre mondiale. Ça c'est notre petit bébé chat de 6 semaines qui pousse
oui,
un petit
l'entend.
Miaulement. Il est trop trop mignon. Regardez-nous en Facebook Live si vous voulez voir ces boules d'amour, parce que franchement ils sont incroyables. Jacqueline, donc ces chats ont bien failli disparaître pendant la Deuxième Guerre mondiale et...
Oui.
Suite à la diminution forte des effectifs, on a eu deux variantes qui sont apparues, le short hair et le long hair. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour les néophytes, de quoi il s'agit ?
Alors le short hair, il a toujours existé, c'est le chat à poil court. Et le long hair est apparu justement parce que, par manque d'effectifs, on a marié avec du persan.
D'accord.
Le persan a amené du poil mi-long. Mais il n'y a que le persan qui a le poil long. Tous les autres sont des poils mi-long, dont le british, quand il a poil mi-long, c'est pas du poil long, c'est bien du mi-long. Et voilà pourquoi le poil mi-long est apparu dans le british.
Avec vous, Sophie, donc vous êtes venue avec trois chats, donc deux mamans hyper tranquilles, l'une qui est accompagnée d'un petit chaton de 6 semaines. Quel est le tempérament de ce chat ? Parce que Jacqueline expliquait que c'est un chat facile. Vous confirmez que c'est un chat extrêmement facile ?
Alors oui, je confirme que c'est un chat qui est très bien adapté à la vie de famille, hein, qui s'adapte aussi bien avec une famille avec des enfants qui sont pas toujours très très doux et très très calmes avec
même
les.
Même si on essaie de
voilà,
leur expliquer,
on essaie bien sûr,
qu'il ne faut pas faire n'importe
bien sûr,
quoi.
Et c'est très important d'expliquer aux enfants qu'il faut respecter les animaux, ça évite beaucoup d'accidents par la suite.
Bien sûr.
Mais le British s'adapte aussi bien avec aux enfants que à des personnes âgées avec les personnes âgées, il aura un comportement très calme aussi. Il va vraiment s'adapter à son public, si je puis dire. Et c'est pour ça que c'est vraiment un chat familial.
C'est pas une furie qui saute partout, mais en même temps, c'est un chat avec qui on a de vraies interactions.
Exactement. Alors, j'ai tendance à qualifier le British de chat plutôt horizontal, contrairement à certaines races qui sont plutôt verticales, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt avoir tendance à sauter, à grimper, à monter en haut du frigo, voire à essayer d'ouvrir le frigo, etc. Ouais. Le British, non. Le British, c'est un chat qui est plan-plan, qui est c'est pas pour autant...
Plan-plan, mais pas mou.
Voilà, c'est ça. C'est pas pour autant un coussin comme peuvent l'être d'autres races. On les pose là, on les retrouve le soir au même endroit. Donc, c'est quand même un chat qui est intéressant parce qu'on peut lui apprendre des choses aussi. Je l'ai fait avec le clicker.
Oui.
J'ai appris
le clicker, pour nos auditeurs qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un petit instrument sur lequel on clique, comme son nom l'indique, et qui fait un petit bruit. Et les animaux, chiens, chats, mais c'est vrai pour toutes les espèces, parce qu'on peut tous les travailler avec un clicker,
exactement,
sont récompensés quand ils font ce qu'on attend d'eux, après avoir entendu ce bruit de clicker.
Voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça fonctionne très très bien, y compris avec le chat. Alors qu'on a toujours tendance à dire que le chat ne se dresse
on
pas.
On peut leur apprendre
voilà,
des choses.
Certes, ils ne se dressent pas, mais on peut tout à fait leur apprendre des choses. Il y a Chemin qui se balade là, sur le plateau,
oui,
quelque
elle
part.
Elle visite le plateau après avoir bien recouvert mon pull de poils. C'est parti.
Oui, alors c'est
faire
une
un petit tour.
C'est une caractéristique effectivement du British. Le British
quoi,
a un
le,
poil
le
très...
Qui perdent leur poil.
Alors, qui perdent leur poil, non pas forcément. Là, c'est un petit peu le stress qui fait que, quand on, comme quand on va chez le véto, bon, elle n'est pas dans son environnement habituel. Mais une des caractéristiques du British, outre le fait qu'il soit très rond, c'est-à-dire qu'il est, il a une morphologie ronde, il n'est pas allongé, il a des pattes relativement courtes et relativement épaisses.
Oui.
Il a un visage très rond aussi, les yeux doivent être très ronds, il ne doit pas avoir un nez trop trop long. Quand on le regarde de face, il doit avoir aussi des petites oreilles. Donc finalement, quand on le regarde de face...
Des oreilles droites.
Oui, droite, absolument.
Pas
parce
les oreilles.
Il ne faut pas le confondre avec
écrasé,
le Scottish,
voilà,
qui est un de ses cousins, effectivement, et avec lequel on peut le marier. Mais le British est vraiment une race totalement à part entière et différente du Scottish. Donc, quand on le regarde de face, il doit vraiment, son visage doit s'inscrire dans un cercle.
Ben voilà,
et voilà, et on voit là la maman qui sort et qui vient faire un petit coucou elle aussi. Alors,
elle est de quelle couleur, cette maman qu'on a vue passer en, si vous nous regardez en Facebook Live?
Alors, elle est chocolat, tortille et blanc.
Alors concrètement, ça veut dire quoi ?
Alors, c'est vrai que, pour tout vous dire, le British est reconnu dans toutes les couleurs possibles chez le chat. Comme,
d'accord.
Il y a peu de races comme ça, comme le persan, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 5000 couleurs référencées par le LOF.
Ah oui.
Autant vous dire que c'est un petit peu compliqué de connaître,
s'y retrouver.
Voilà, de connaître toutes les couleurs. En gros, on va dire que cette chatte-là, elle est bicolore, c'est-à-dire qu'elle a une couleur et du blanc. Comme le chaton que vous pouvez voir ici, qui lui est roux
là,
et blanc.
Là, on ne le voit plus parce qu'il est dans
là,
sa cage,
plus,
mais il est
sa
roux
cage.
Et blanc, effectivement.
Voilà. Et Yashma, qu'on a vu tout à l'heure, elle est silver tabby, c'est-à-dire que la base du poil est blanche et par-dessus, on a un patron tabby, c'est-à-dire rayé, finalement.
D'accord.
Voilà, pour faire
alors,
simple.
Alors, juste parce que, évidemment, le temps nous est compté et on aimerait pouvoir parler de ces chats extrêmement longuement. Avec vous, Jacqueline,
oui,
très rapidement, un conseil pratique des gens qui seraient intéressés par cette race de chat, où trouver un élevage sérieux et que demander à l'éleveur ?
Alors, pour trouver un élevage sérieux, il vaut mieux se tourner vers les clubs de race. Par exemple, évidemment, l'association pour la promotion du British et du Scottish.
Votre association, voilà, mais oui. Vous faites bien d'en parler. Voilà. L'APBS.
Oui, APBS, qu'on peut trouver sur Internet et sur Facebook.
D'accord.
On a une page Facebook et on a aussi un site internet. Il suffit de taper APBS.
Voilà. C'est juste et très rapidement, là, c'est important d'aller vers des éleveurs référencés et sérieux, oui, notamment pour éviter les maladies, les choses comme ça.
Non seulement les maladies, mais chez un éleveur sérieux, vous avez un pédigré.
Bien sûr.
Vous savez d'où vient votre chat.
Bien
sûr. Si vous allez en animalerie, vous n'avez aucune garantie. Et en plus de ça, en animalerie, ils vendent super cher des chats sans pédigré. Et on ne sait pas d'où ils viennent. Ils peuvent très bien venir des pays de l'Est ou de n'importe où. Et alors qu'un éleveur, normalement, un bon éleveur, on va dire, un éleveur sérieux, il a ses chats dans sa maison, il s'occupe d'eux, et il les chouchoute, et voilà quoi.
Merci à vous, c'est beaucoup trop court. J'aurais aimé parler de ces British beaucoup plus longtemps. Merci à vous, Jacqueline. Je rappelle le nom de votre association, l'Association pour la promotion du British et du Scottish, l'APBS. Merci à vous, Sophie, d'être venue avec ces trois adorables chats qui ont vraiment passé une heure en notre compagnie, mais en toute décontraction. Je vous embrasse. Excellent week-end à tous.
Merci, Natacha.